Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel, 22h à Daido, la ville de naissance de Bendeka qui était notre invité, et 23h à Paris où Bendeka sera en concert le 4 mai. Et le journal est présenté par Fabrice Le Grier. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Claudie et bonsoir à tous. Il est 17h à Ottawa, jour de législatives anticipées au Canada. Le favori, c'est l'actuel Premier ministre Mark Carney et c'est bel et bien l'ombre de Donald Trump qui plane au-dessus de ce scrutin. Nous retrouverons notre envoyé spécial en direct dans ce journal. Autre grand titre, la gigantesque panne de courant qui a touché la péninsule ibérique ce lundi et qui la touche encore. Les choses ne sont pas encore revenues à la normale. Direction la Catalogne dans un instant. Une tentative de manipulation, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky pour qualifier l'annonce d'un cessez-le-feu de 3 jours annoncé par Vladimir Poutine. Et la Cour internationale de justice se penche depuis ce lundi sur le blocus de l'aide humanitaire à Gaza. Et nous vous le disions, jour d'élection donc au Canada, des législatives anticipées que les libéraux de l'actuel Premier ministre Mark Carney devraient remporter. Une victoire impossible il y a encore quelques semaines, jusqu'à ce que Donald Trump rebatte les cartes politiques. Et face de ces élections, un scrutin historique, Marine de la Moissonnière, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes en direct du quartier général de Mark Carney.
Oui, c'est le grand jour hein, pour les Canadiens. Un quart des électeurs s'était déjà prononcé avant même l'ouverture des bureaux de vote ce matin. On peut en effet voter par anticipation ici. Le taux de participation devrait être très élevé aujourd'hui, car pour les Canadiens, ces élections sont vraiment historiques, cruciales. Il s'agit de désigner la personne la plus à même de protéger le pays face à Donald Trump et à ses attaques répétées. Nouvelle salve ce matin encore. Sur son réseau social, le président américain a appelé les Canadiens à voter pour lui et à devenir le 51e État d'Amérique. Hors de question, lui a répondu le conservateur Pierre Poilievre, qui s'était forcé pendant la campagne de prendre ses distances avec Donald Trump. Il est pourtant proche de lui hein, sur le plan idéologique. Il parle aussi un peu comme lui. C'est un mini-Trump, raillent ses adversaires, qui préfèrent le profil plus lisse de Mark Carney, l'actuel Premier ministre. Il préfère donc son profil et surtout son CV, novice en politique, ancien banquier, ex-directeur de la Banque centrale du Canada et du Royaume-Uni. L'actuel Premier ministre libéral rassure et devrait l'emporter ce soir.
Marine de la Moissonnière, notre envoyée spéciale en direct pour ces législatives canadiennes. L'autre information du jour, c'est la péninsule ibérique qui subit depuis la fin de matinée une coupure massive de courant. Et cette panne n'est pas terminée. L'électricité est rétablie à hauteur de 50% en Espagne, où 11 trains sont notamment encore bloqués avec des passagers à bord. Courant rétabli pour 750 000 consommateurs au Portugal, où les choses pourraient revenir à la normale dans la nuit. Les deux pays, et dans une moindre mesure le sud de la France, ont été touchés, comme le détaille Ivan de las Heras, coordinateur de la prévention des risques professionnels dans les entreprises de Catalogne, joint par Manuel Terradillos.
Nous étions dans l'entreprise et nous avons remarqué que l'électricité était coupée. Comme nous avons un protocole, je suis descendu rapidement à l'usine de production où se trouvent les grues, les machines, pour que personne ne soit blessé. Et là aussi, le courant était également coupé. J'ai de la famille à Valladolid, en dehors de la Catalogne, et eux non plus n'avaient pas d'électricité. C'est là que vous vous rendez compte qu'en Espagne, nous étions privés d'électricité dans de très nombreuses villes. Mes collègues qui se trouvaient au Portugal n'avaient pas d'électricité non plus. Et puis, il y a d'autres collègues que nous avons en France, dans le sud de la France. Nous avons essayé de les contacter, mais les appels ne passaient pas. Les choses se sont ensuite emballées.
Tentando contactar con ellos, no había manera. Entonces la cosa ya se volvió pues una locura.
Et toujours pas d'informations concluantes à ce stade sur les causes de ce blackout. L'origine pourrait être en Espagne, d'après les autorités portugaises. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a appelé à ne pas spéculer et à agir avec responsabilité et civisme. Donald Trump exhorte la Russie et l'Ukraine à conclure un arrêt des combats permanents et un accord de paix. Pour le moment, c'est une trêve de 3 jours que Vladimir Poutine a annoncé, du 8 au 10 mai, pour des raisons humanitaires et à l'occasion des célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. D'après la présidence russe, Volodymyr Zelensky dénonce une tentative de manipulation. Emmanuel Macron, quant à lui, assure, je cite, que nous allons accroître la pression sur la Russie dans les 8 à 10 prochains jours. Dans un entretien accordé à Paris Match, le président français estime avoir convaincu les Américains de la possibilité d'une escalade des menaces et potentiellement de sanctions contre Moscou. La Cour internationale de justice se penche depuis ce lundi matin sur le blocus de l'aide humanitaire à Gaza. Les juges doivent remettre un avis juridique sur les obligations légales d'Israël, la puissance occupante, vis-à-vis des Nations Unies et des États tiers qui fournissent une aide humanitaire à Gaza. Depuis le 2 mars, Israël interdit l'entrée de toute aide à Gaza. 40 États, 3 organisations multilatérales vont plaider toute la semaine devant la plus haute instance de l'ONU. L'ONU a ouvert les plaidoiries, c'est désormais au tour des Palestiniens. Ils ont sans surprise dénoncé la politique israélienne. Stéphanie Mop à La Haye.
Les Palestiniens ont estimé que la privation de l'aide humanitaire, la famine qui guette Gaza, fait partie d'une campagne plus large d'Israël visant à empêcher l'autodétermination des Palestiniens. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur palestinien à La Haye, Amar Hijazi.
Pour mettre en œuvre cette politique, Israël a mené une campagne incessante d'effacement du peuple palestinien. Sa démographie, sa présence matérielle, son identité nationale, son histoire, son patrimoine et son humanité même. Cette campagne d'effacement a été la marque principale de la Nakba, qui a débuté en 1947 et dont les chapitres les plus sombres se déroulent encore sous nos yeux et sous les vôtres.
Israël n'est pas venu à La Haye, mais à l'heure où les 15 juges entraient dans la salle d'audience, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, donnait une conférence de presse accessible en ligne depuis Israël.
Israël a décidé de ne pas participer à ce cirque. Il s'agit d'une nouvelle tentative de politisation et d'abus du processus judiciaire pour persécuter Israël. L'objectif est de priver Israël de son droit le plus fondamental à se défendre.
Les audiences devant la CIJ se poursuivront jusqu'à vendredi. Stéphanie Mopala et RFI.
En Iran, au moins 65 morts. Dernier bilan de l'explosion survenue samedi dans le plus grand port commercial du pays. Bilan qui s'est donc encore alourdi. Plus d'un millier de personnes ont par ailleurs été blessées. Les pompiers tentent toujours de venir à bout de l'incendie qui ravage le site. Les vents violents rendent l'opération difficile. Les habitants aux alentours sont appelés à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre en raison de possibles fumées toxiques. La cause de l'explosion n'a toujours pas été déterminée. Mais les douanes parlent d'un départ de feu dans un dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques. Négligence ou acte intentionnel, l'enquête devra le déterminer. Un mois tout juste après le séisme qui a tué plus de 3800 personnes à travers le pays, la Birmanie demeure dans un état plus que critique. Des dizaines de milliers d'habitants n'ont plus de toit. À l'approche de la saison des pluies, les organisations humanitaires s'inquiètent de l'ampleur des difficultés à venir. Le tout dans un climat de guerre civile depuis le coup d'état de février 2021. Les bombardements se poursuivent, malgré un cessez-le-feu décrété par la junte pour soutenir les efforts des secours et de reconstruction. Les dépenses militaires mondiales ont connu l'an dernier leur plus forte augmentation depuis la fin de la guerre froide, atteignant 2700 milliards de dollars à cause des guerres et des conflits en cours sur la planète. C'est ce que rapporte un rapport du CIPRI publié ce lundi. Dépenses qui ont particulièrement augmenté en Europe et au Moyen-Orient, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Les précisions, Franck Alexandre.
Plus 9,4% en une année seulement, de 2023 à 2024. La hausse est historique et signe la 10e année de hausse consécutive. Une courbe presque exponentielle pour les dépenses militaires et qui rappelle les efforts consentis pendant la guerre froide. L'Europe, Russie incluse, est la région qui investit le plus avec une hausse de 38%. Sur un an, l'Ukraine, guerre oblige, consacre ainsi 34% de son PIB à ses armées. L'Allemagne se réarme aussi, consacrant 88 milliards de dollars. Berlin est ainsi devenu le principal contributeur en matière de défense en Europe. Mais les 32 membres de l'Alliance Atlantique ne sont pas en reste. À elles seules, les dépenses américaines représentent 37% des dépenses militaires mondiales. Et la tendance est identique au Moyen-Orient et en Asie. C'est donc le monde entier qui, à grand renfort de budget XXL, fourbit ses armes.
Merci Franck Alexandre. Après 2 jours et demi de cavale, un Français de 21 ans s'est rendu à la police italienne près de Florence ce lundi. Il a avoué être le meurtrier d'Aboubacar Cissé, tué de plusieurs dizaines de coups de couteau. C'était vendredi dans la mosquée de la Grand Combe en France, dans le Gard. Une vidéo avait été réalisée juste après le meurtre, mais en garde à vue, l'individu affirme ne pas se souvenir d'avoir filmé son acte. 25 personnes interpellées ou extraites de leurs cellules ce lundi partout en France. Vaste opération policière après les mystérieuses attaques visant des prisons et des agents pénitentiaires ces derniers jours. Opération menée en région parisienne, à Marseille, à Lyon ou encore à Bordeaux. Le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Il est 23h10 sur RFI, heure de Paris.